Mission Louisiane.
Mission 2, la cuisine en Louisiane, présentée par les 5e 3.
Bonjour à tous et à toutes, nous allons vous présenter une émission sur la cuisine louisianaise. Nous allons vous parler de plats et ingrédients connus, mais aussi vous présenter une interview avec une cuisinière de la Nouvelle-Orléans.
En effet, pour approfondir le thème de la cuisine louisianaise, nous avons demandé à la journaliste Marine Leduc de faire une interview avec une cuisinière louisianaise.
Nous avons choisi Adrienne Flamand-Reich, la chef cuisinière de l'école bilingue de la Nouvelle-Orléans, car c'est une école bilingue franco-anglaise et qui sert des repas provenant de différentes cultures de la Louisiane et du monde.
En plus de ses nombreuses connaissances sur la cuisine cajun, Adrienne connaît bien les élèves louisianais et leur goût et elle parle très bien français.
Mais au fait, qu'est-ce que c'est la cuisine cajun ?
La cuisine cajun est un mélange de plusieurs cultures, car la Louisiane est une terre où vivent et où ont vécu des populations d'origine différente. Des Amérindiens, des Français, des Espagnols, des Africains, des Haïtiens, des Cajuns et d'autres populations encore.
Le plat gombo est l'exemple même de cette cuisine métissée. Quand on parle de gombo, on parle soit d'un légume vert, soit d'une sauce, soit d'un plat. Le plat gombo se cuisine en Louisiane, mais aussi dans de nombreux pays africains. En effet, les origines du gombo louisianais remontent à l'Afrique de l'Ouest, à l'époque où les Africains réduits en esclavage apportaient le gombo avec eux dans les Caraïbes et le sud des États-Unis, y compris dans la ville portuaire de la Nouvelle-Orléans.
Nous avons lu un article de la BBC sur les différences entre le gombo louisianais et du Bénin, et voilà ce que nous avons appris. Le gombo cajun traditionnel se cuisine avec de grosses crevettes décortiquées, des filets de poisson blanc, comme le poisson chat, le mérou, le vivano ou la sole, de la chair de crabe ou le légume gombo. Le gombo au Bénin, lui, peut se cuisiner avec du fromage frit, des crevettes séchées et de la peau de vache, pour ajouter de la saveur et de la texture.
On peut constater qu'il y a eu une influence française sur le gombo louisianais. Contrairement à la recette béninoise, le gombo de Louisiane commence par un roux, une technique française d'épaississement obtenue par la cuisson d'un mélange de farine et de beurre, ou d'autres matières grasses.
Au Bénin, il n'y a pas de roux. On y ajoute du maquereau, du poisson salé, une pâte obtenue en broyant du piment et des crevettes séchées, des lanières de peau de vache bouillies et des blocs de fromage frit à la poêle dans de l'huile de palme sur le feu. L'ultra-épaisseur du gombo est essentielle, car le ragoût se mange à la main en utilisant un morceau de foufou comme ustensile. Alors que le gombo de Louisiane comprend également des tranches de légumes gombo dans la version ouest-africaine, le gombo devient la sauce elle-même, enveloppant chaque ingrédient.
Dans la recette louisianaise du gombo, on retrouve des écrevisses louisianaises. Nous avons vu en invité que si nous voulions cuisiner du gombo en région parisienne, il serait préférable de ne pas utiliser les écrevisses louisianaises, car c'est une espèce invasive en France.
Mais que sont des espèces invasives ?
Ce sont des espèces vivantes introduites hors de leur habitat naturel et dont la prolifération provoque des dégâts dans le milieu dans lequel elles s'installent. C'est le cas des écrevisses louisianaises qui ont été introduites en France et nuisent aux espèces d'écrevisses françaises indigènes.
Par quoi pourrait-on remplacer les écrevisses alors ?
En 5e 3, nous pensons que nous pouvons les remplacer par des crevettes ou des écrevisses françaises.
Nous allons maintenant vous présenter la recette de gombo de la chef Adrienne.
Ça, c'est comme une soupe. Il y a beaucoup de sortes de gombo. Moi, je le fais au poulet et saucisses, mais il y a des autres qui le font avec des écrevisses, du crabe. Mais le truc qu'il ne faut pas mettre dans le gombo, c'est le tomate. Il y a tout une histoire. De parler de gombo, ça pourrait être des heures. C'est origine d'Afrique, parce que comme tout ce qui est bon à la Nouvelle-Orléans, ça vient de les gens qui sont venus ici en esclaves. Alors le gombo, le jambalaya, plein de choses comme ça, ça vient, tous les épices, ça vient d'une origine d'Afrique. Ça vient aussi de faire à manger pour beaucoup de gens, pour pas trop d'argent. La recette, on commence par faire le roux, c'est avec la farine et de l'huile, et ça cuit pour très longtemps. Après, on met des oignons, l'ail, poivron et céleri. On appelle ça the Trinity. Alors ça, c'est la base de beaucoup de plats à la Nouvelle-Orléans. Après, on met du bouillon de poulet. Et puis après, on met de la saucisse et du poulet dedans. Et ça cuit tout doucement pour très longtemps.
En Mauritanie, la recette est encore différente. Je vais vous la présenter. Voici les ingrédients. La recette est composée de viande, de bœuf ou de mouton, du gambo, de l'eau, de l'huile, assaisonnement à votre choix, tomates concentrées et du riz parfumé. On peut voir que contrairement à la Louisiane, les tomates sont autorisées.
Nous allons maintenant enregistrer une personne de la cantine du collège Henri Vallon sur le gambo.
Moi je suis Syrah et agent de service général au collège Henri Vallon et je fais un peu tout. Après, je sais pas.
Et dont aider à la cuisine.
Ouais, on peut aider à la cuisine aussi, s'il en manque.
D'accord.
Est-ce que vous cuisinez le gambo chez vous? Quelle est votre recette et d'où vient-elle?
On cuisine le gambo chez nous du Mali. Moi, je viens du Mali et il y a plusieurs recettes. Et la recette la plus répandue, c'est soupe kanja. Recette. Et on peut mettre plusieurs différentes viandes, trois ou selon nos moyens. La viande, du poulet, crevettes ou poissons. Et on met d'oignons et poivrons, l'ail, céleri, huile de palme aussi. Après, on accompagne avec du riz.
Je vais vous présenter d'autres plats louisianais. Il y a par exemple le jambalaya. L'origine du nom de cette recette viendrait de la contraction du mot français jambon et aya, mot africain pour désigner le riz. Ce plat peut être réalisé avec plusieurs viandes et fruits de mer selon les arrivages, par exemple des crevettes charnues ou de la viande d'alligator. Du riz long grain est incorporé pour absorber les saveurs du bouillon. Il y a aussi la soupe de tortue. C'est une soupe avec de la viande de tortue et des épices. La soupe à la tortue est connue en Angleterre depuis le XVIIe siècle. Faite de tortue de mer, elle a d'abord été consommée aux Caraïbes, mais elle n'a été servie à Londres pour la première fois qu'en 1711. Les soupes à la tortue d'Amérique du Nord sont tout à fait différentes car on utilise des petites tortues terrestres. À un moment menacé d'extinction, ces populations se sont restaurées et elles sont aussi actuellement élevées dans des fermes.
Nous allons maintenant vous présenter l'interview avec la chef Adrienne.
Cette interview a été menée par la journaliste Marine Leduc, mais c'est nous qui avons enregistré les questions.
Avez-vous déjà cuisiné des tortues ou des alligators ou tout autre animal sortant de l'ordinaire et spécifique à la Nouvelle-Orléans? Est-ce que les élèves mangent ces recettes?
Non. J'aimerais bien. Je l'ai fait plein de fois en mode de restaurant et quand je travaillais dans les restaurants. Mais pour les élèves, je crois qu'ils ont un petit peu peur. La saucisse de alligator, oui, peut-être. Mais il faut pas trop le dire.
Pourquoi parlez-vous français?
Mon père, il vient de Paris, de Saint-Germain-en-Laye. Et puis ma maman, elle est américaine et elle travaillait dans les années 80 pour 3M. Et puis elle enseignait l'anglais à des gens qui travaillaient un petit peu dans le monde. Et puis c'était très vite marié. Et puis ils sont partis à Minnesota. Et j'étais née en 84, juste 2 ans après. J'ai toujours parlé en français avec mon père et en anglais avec ma maman, mais j'ai pas passé du temps en France dans les écoles. Alors, c'est juste de parler avec ma famille, de faire les petits emails. Alors, je fais plein de fautes, mais j'essaye toujours de parler français tous les jours.
Où avez-vous appris la cuisine française?
Oui, comme mon père il était français, j'ai passé beaucoup d'été avec ma tata et on allait au marché tous les jours et « Ah, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ?» Je sais pas. Alors on regarde, on parle et on a choisi et puis elle m'a dit « Tu mets ça et ça ensemble, ça c'est des trucs traditionnels, ça. » On regardait beaucoup de recettes aussi, et puis des livres, des vieux livres de la rousse, de la cuisine de français.
Et c'est quoi votre plat préféré français que vous préférez cuisiner?
Lapin à la moutarde. Oui, c'est quelque chose on faisait dans notre famille, beaucoup. Aussi aux prunes, mais on trouve moins les lapins ici. Alors je fais pour le lunch un poulet aux fines herbes. Je mets un petit peu de moutarde dedans aussi, juste pour donner un petit goût.
Comment êtes-vous devenue chef cuisinière?
En France, ma famille avait un restaurant, ça s'appelait Rossello, mais c'est parti depuis très longtemps. Alors, j'ai toujours cuisiné avec ma famille en France quand on passait des vacances. Et puis, je suis ici à l'école bilingue en format de chef, ça fait 3 ans. Mais avant, je travaillais dans les grands restaurants à Nouvelle-Orléans. J'étais à l'université ici à Nouvelle-Orléans pour être enseignante. Mais j'avais toujours un job de cuisinier. Après Katrina, j'ai changé de mode et j'ai resté dans la cuisine. Et ça fait 16 ans que je cuisine. On a un nouveau bâtiment ici à l'école bilingue il y a 3 ans. Et puis moi, j'ai proposé à l'école de venir d'être le chef, la chef. Et j'ai fait les menus, j'ai fait tous les prix et puis ils ont dit oui. Et voilà.
Et pourquoi vous avez décidé de changer après Katrina?
Mon cœur était toujours dans la cuisine. Je travaillais dans la cuisine pour avoir assez de sous et tout ça, mais quand je pensais à ma journée d'aller à l'école et à l'université, j'étais pas super motivée, mais j'étais toujours motivée pour aller dans la cuisine. Alors j'ai fait une petite change là.
Katrina, ça a été un changement en fait pour beaucoup de gens comme ça qui ont décidé de changer de job ou faire autre chose?
Oui, ça a forcé plein de gens de changer leur style de vie et puis aussi tout le monde est parti de la Nouvelle-Orléans parce qu'on ne pouvait pas rester. J'étais partie pour 2 mois, maintenant ma belle-mère, mais avant c'était juste la maman de mon copain. Et puis elle était aussi chef, elle avait un traiteur. Alors je travaillais pour elle aussi, elle était super sympa avec moi et elle m'a dit de suivre mon cœur. Alors j'ai fait ça. Et puis après, quand j'ai revenu à Nouvelle-Orléans, il y avait plein de restaurants qui cherchaient quelqu'un pour travailler et j'ai trouvé un super restaurant et j'avais des chefs qui m'ont appris plein de choses.
Katrina est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire des États-Unis. Il a eu lieu en 2005.
En histoire-géographie, nous allons travailler sur cet ouragan.
En quoi consiste votre travail?
Je fais à manger pour tous les élèves. On commence en crèche. Pour les enfants entre crèche et moyenne section, ils ont un snack tous les jours. Chaque matin, quand j'arrive à l'école, je prépare cette snack. C'est soit des petits muffins, soit un petit cake, soit des pommes coupées, des bananes, des raisins, mais il faut tout préparer, couper et emmener à chaque classe, dire bonjour aux enfants. Après, quand je reviens, je prépare pour le lunch. Alors, il faut commander des jours en avance que quand j'arrive dans la cuisine à 9h, les trucs, ils sont déjà là. Alors, je fais les commandes soit la journée d'avant pour le prochain jour ou même 2 jours en avance parce que, tu vois, le riz, ça peut rester dans le placard. Les petits-enfants de crèche à toute petite, ils mangent vers 11h du matin. Comme ça, ils ont assez de temps pour faire un petit sieste avant que les mamans et les papas arrivent. Alors, on prépare les petites boîtes en avance. La formule de lunch, c'est toujours un fruit, 2 légumes, et soit une viande ou un protéine, et puis aussi quelque chose qui cale, quoi. Du riz, des pâtes, des pommes de terre. Et si tu n'aimes pas un de les 2 légumes, j'espère que l'autre, ça marche. Alors, on prépare tout ça et on les met dans les boîtes, et puis on les emmène en classe. Et puis après, il y a 2... cantine. Moi, j'ai la cuisine, mais j'ai 2 points de service pour les petits-enfants et après pour les plus grands. En tout, il y a 4 services total. Il y en a un qui commence à 11h20. Ça, c'est pour moyenne section et grande section. Après, il y en a une autre de ce côté-là qui commence à 11h45. Et ça, c'est pour first and second.
Oui, donc c'est CP et CE1, c'est ça?
Oui. Et puis après, moi, Sur mon côté, j'ai les élèves de third and fourth grade à 11h45. Et après, à 12h25, j'ai tout le middle school. Fifth grade, sixth grade, seventh grade, eighth grade.
Donc à 12h25, il y a le service des 6e, 5e, 4e, 3e.
Quel est le plat préféré des élèves?
Il y en a deux, même trois. C'est dur. Il y a les plats préférés des enfants qui sont un petit peu plus grands et aussi le plat préféré des enfants qui sont un petit peu plus petits. Mais le jour où on a le plus de commandes, c'est la journée du poulet frit avec des patates douces, des petits pois et un petit gâteau au chocolat. Les plus grands, ils adorent les pâtes bolognaises qu'on sert avec une petite salade et des fraises et de la chantilly. Alors, ce jour-là, c'est... Il y a une expression en anglais, YOLO, you only live once. Alors, on dit YOLO et on dit ils sont YOLO for bolo. C'est une journée à la folie. les plus petits, c'est les croissants. Ils adorent ça. On a des croissants au jambon et fromage avec des chips que je fais maison.
Quel est le plat le plus difficile à cuisiner?
C'est le poulet frit. Parce que déjà, c'est pas difficile, mais il faut faire plein de poulet frit en un tout petit temps. C'est 80 livres de poulet. Alors c'est beaucoup de poulet pour mettre dans de la farine, après dans du lait, après encore dans la farine, après dans la friteuse. Parce que tu peux pas le préparer en avance non plus. Alors c'est le plus dur en logistique, mais c'est aussi le favori.
Quel plat traditionnel servez-vous aux élèves?
Tous les deux lundis, on a red beans and rice. Alors c'est comme des flageolets, mais ils sont rouges. Et on les fait cuire avec des oignons, du céleri, beaucoup d'ail et de la saucisse. Et puis on le serve avec du riz, aussi cornbread and green beans, les haricots verts. Alors, c'est beaucoup d'haricots, mais c'est quelque chose de super traditionnel que les gens mangent le lundi parce que tu mets tout dans un pot et le lundi, en la Nouvelle-Orléans, c'était la journée de faire le linge. Alors, tu peux mettre tout le truc sur le plaque de cuisson, puis tu t'en vas pour faire ton linge. Aussi, on fait du jambalaya et du gumbo quand il fait froid. Alors, j'essaie d'avoir toujours un petit mix de les plats traditionnels de la Louisiane, les trucs que tout le monde aime, et aussi un petit peu de la France, mais aussi des autres pays.
Êtes-vous formé à cuisiner des recettes d'autres pays?
On a aussi des semaines de thèmes où on travaille sur quelque chose de spécifique. Il y avait la semaine de Hispanic Heritage.
De l'héritage hispanique?
Des pays de Argentine, Chile, Mexico, Espagne. On a fait un paella un jour, on a fait churros con chocolate. On a fait plein de choses. Aussi de la Caraïbe, platanos, Cuba. J'essaye d'incorporer plein de choses comme ça. Et dans un mois, on a aussi le Nouvel An chinois. Alors on va faire quelque chose de spécifique pour ça, pour célébrer.
Sur le site de l'école, vous parlez d'éducation culinaire. Pouvez-vous nous expliquer sa définition? Est-ce apprendre à cuisiner ou apprendre à bien s'alimenter?
Il y a deux parties. Bien s'alimenter, c'est super important pour moi de manger plein de couleurs, plein de légumes et goûter plein de choses. On a beaucoup d'élèves qui veulent goûter des trucs nouveaux, comme des poires, des abricots, des raisins secs jaunes. Ça, c'était nouveau pour quelques élèves. Alors, quand on fait leur plateau pour les enfants, on met un petit peu de tout. Comme ça, ils ont l'opportunité de goûter plein de choses. J'ai ma tante qui me disait toujours « manger, c'est un plaisir ». Moi, je ne veux pas forcer les enfants à manger des trucs qu'ils n'aiment pas. Mais goûte, on ne sait jamais. Ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est j'ai un atelier de cuisine pour les enfants. Alors, on apprend aussi à faire des cookies, faire la sauce, plein de choses comme ça.
De votre point de vue, les enfants de la Nouvelle-Orléans ont-ils une alimentation saine et variée? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé liés à l'alimentation à la Nouvelle-Orléans?
Je crois que notre école, c'est un exemple où les enfants ils mangent très bien. On mange beaucoup de brocolis, beaucoup d'haricots verts, beaucoup de fruits. Mais ça a pris du temps pour tout le monde, pour goûter et aussi pour... On a fait des échanges. Ah, tu veux encore des fraises et de la chantilly? Il faut manger tout le brocoli. Ah, tu veux encore un petit bout de chocolat? Ah, il faut manger tous les petits pois. Alors, maintenant qu'on a commencé ça et on a mis des règles, ça aide beaucoup à avoir les enfants qui mangent tout. Mais comme dans toutes les parties du monde, il y a toujours des problèmes. Soit les gens, ils n'ont pas assez à manger, ou soit ils ont des produits qui ne sont pas fraîches. Il y a beaucoup d'endroits de la Nouvelle-Orléans où ils n'ont pas d'accès à des trucs qui sont frais. Alors, il n'y a pas de marché pour les gens qui prennent le bus ou ils n'ont pas de voiture, parce qu'il y a des gens qui sont très pauvres ici. Alors, ils n'ont pas d'opportunité pour aller chercher des fruits, des légumes qui sont frais. C'est soit en boîte ou soit des trucs qui sont préparés, qui sont frits, comme le McDo, tu vois, les trucs vite, fast food.
Il y a beaucoup d'obésité ici à la Nouvelle-Orléans?
Oui, l'alimentation à la Nouvelle-Orléans, c'est beaucoup, on fait beaucoup à manger parce qu'on aime les gens. Tous les fêtes qu'on a ici, il y a plein à manger. Du poulet frit, du poisson frit, des huîtres frites, des patates douces, beaucoup de choses qui sont cuites avec de l'art. Et c'est délicieux. Et on veut partager ça, mais quand tu manges comme ça tous les jours, ça continue à créer des problèmes.
L'émission est terminée. Merci beaucoup.